الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد نحن في ليلة السادس أو السابع من شهر ربيع الثاني في عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس 39 من شرح كتاب التوحيد. Nous sommes le 4 janvier 2017 et nous entrons dans le 39e cours de l'étude du livre de l'unicité de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. ونحن في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Toujours dans ce chapitre concernant la peur et ses détails à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'après le sens rapproché, ce n'est que le diable qui vous fait peur à l'aide de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi si vous êtes croyant. Et ce que je viens de vous dire, cette traduction est plus précise, parce qu'elle est conforme au tafsir du verset, que ce que j'ai devant moi. Car des fois, pour traduire le verset, on a besoin de l'explication du verset, et pas simplement des sens du mot. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce grand chapitre de Kitab al-Tawhid, de cette adoration immense qu'est la peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dont nous avons parlé lors de notre dernier cours, dans lequel nous avons vu qu'après avoir cité l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'auteur a cité sa crainte. Ceci car il existe des gens qui prétendent n'adorer qu'Allah, azza wa jal, que par amour uniquement. Ces gens-là sont dans l'erreur. Leur croyance est erronée, elle est malsaine. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans son livre de l'aimer, certes, mais aussi de le craindre et d'espérer en sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cet effet que l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Et nous avons vu lors de notre dernière assise les différentes catégories de la peur. La première étant la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se définit comme étant une peur éprouvée par le serviteur qui le pousse à vénérer celui dont il a peur et celui qu'il craint. Cette peur le pousse à le vénérer, à s'avilir devant lui, à reconnaître sa faiblesse en tant que serviteur et sa puissance en tant que créateur subhanahu wa ta'ala. Cette peur ne doit être vouée qu'à Allah et nul ne peut la partager avec lui. Car quiconque vous vouerait cette catégorie de peur à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela entraînerait son exclusion de l'islam, sans le moindre doute. La deuxième, al-khawf al-tabi'i, c'est la peur naturelle, comme l'un d'entre nous qui craint d'être mordu par un chien, attaqué par un lion, par un ennemi, par une personne armée qui tenterait de l'agresser. Ce sont des peurs qui sont naturelles, qui ont été éprouvées d'ailleurs par des hommes comme Moussa alayhi salam, comme Allah l'a cité dans Surat Al-Qasas, les récits. Parmi les catégories de peurs, il y a Khawf al-Ma'asiyah, la peur qui est une désobéissance. Ou alors, al-khawf al-muharram, la peur interdite. Elle consiste à craindre une créature, puis, à cause de cette crainte, commettre un interdit ou délaisser une obligation. Cette peur est interdite. Elle arrive au degré du polythéisme mineur, al-shirk al-asrar, comme l'a noté le shir Saleh al-Fawzan. Hafidhahullah ta'ala, ceci car le cœur ayant craint un être qui l'a poussé à désobéir a un penchant vers cet être qu'il a craint et qu'il a redouté en dehors d'Allah. Ce penchant est une forme de shirk asrar. Quatrièmement, al-khawfu shirki, al-shirki, la peur qui relève du polythéisme. Et nous avons vu que c'est la peur que l'on doit éprouver pour Allah lorsqu'elle est vouée à un autre que lui. C'est du polythéisme majeur. Et enfin, al-khawfu al-wahmi, la peur imaginaire qui est la peur de la personne, de l'ombre, d'un bruit, d'une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, le moindre bruit, le moindre changement de situation la déstabilise et lui fait susciter la peur. C'est ce qu'on appelle la lâcheté, contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma ni'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre al-jubn. Et al-jubn, c'est al-khawf al-wahmi. C'est cette peur-là dont on parle. Ceci étant, nous allons maintenant lire les textes de ce chapitre. Le premier, قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ceci n'est que le diable qui vous fait peur à l'aide de ses alliés. N'ayez donc pas peur de moi, n'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi plutôt si vous êtes vraiment croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait bien la mention de al-khawf, de la peur, et en a fait une condition pour la foi véridique et authentique. In kuntum mu'minin, si vraiment vous êtes croyant, celui qui est véritablement croyant craint Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et son cœur n'est pas habité par la crainte d'une créature en dehors d'Allah. Ceci car son cœur est rempli de connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs. Il connaît qui est Allah. Il sait qu'Allah a créé, a pourvu à la subsistance, a guéri, a guidé, a donné, a repris, a éprouvé, a accordé une issue, à l'éprouver. Il sait qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux, la terre et leurs habitants. Il sait qu'il a créé les cieux et la terre en six jours, sans éprouver la moindre fatigue ni paresse. Il sait qu'Allah Azza wa Jalla est exempt de toute défaillance, telle que la somnolence, le repos, la tristesse, le besoin, la faim, la soif. Et il sait que toutes les autres créatures ont forcément ces défaillances. Elles sont vouées à disparition, elles sont vouées à l'anéantissement. Kullu man 'alayha fan, tout ce qui s'y trouve est voué à disparition. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, et seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de noblesse et de majesté, subhanahu wa ta'ala. Une telle croyance a l'effet de faire susciter la peur du Créateur et non pas de la créature. Et lorsque cette croyance est faible dans le cœur, lorsque cette connaissance d'Allah l'est aussi, ce qui se passe, c'est que l'individu va craindre autre qu'Allah. Et plus sa foi et connaissance d'Allah vont augmenter, puis il connaîtra et craindra Allah. Pour cette raison, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu par ses noms et attributs. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala fait la mention de la science dans le Coran et la Sunna, mais aussi des savants et des gens de science, il ne faut pas croire que ce qui est voulu ici, ce sont les sciences mondaines. Plus tu acquiers les sciences mondaines, plus tu crains Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, et bien sûr que non. Mais il s'agit ici de la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'auteur, rahimahullah, nous cite ce verset qui a un contexte qui nous est raconté par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il nous dit que ce verset est venu après la parole d'Allah Azza wa Jal, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Voici le contexte dans lequel ce verset a été cité. La traduction rapprochée, Allah Azza wa Jal nous dit, ceux à qui les gens ont dit, des personnes se sont réunies pour vous atteindre, craignez-les donc, ont répondu, Allah nous suffit, et quel merveilleux garant, et cela a fait croître leur foi. Ils sont retournés sur leurs pas avec une grâce d'Allah. Aucun mal ne les a atteints. Ils ont suivi l'agrément d'Allah et Allah est détenteur d'une immense grâce. Ceci n'est que le diable qui cherche à vous faire peur à l'aide de ses alliés. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt si vous êtes véritablement croyants. De quoi est-ce que l'on parle? Lorsque s'est produite la bataille connue sous le nom de Uhud, la bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont opposés à Quraysh et leurs alliés. Ils ont été éprouvés. Ils ont subi de lourdes difficultés et pertes. Parmi eux, certains ont même été tués et sont tombés. Allah tabaraka wa ta'ala, après cette bataille qui est la bataille de Uhud, a envoyé les musulmans pour se défendre à nouveau, car à la fin de cette bataille, les koufars de Quraysh sont repartis d'où ils venaient et ont menacé les croyants en leur disant « Sanarji'u ilaykum »« Nous reviendrons vers vous » afin d'éradiquer ceux qui restent parmi vous. Lorsque cette information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans, ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Il nous est suffisant. Et quel merveilleux garant. Et cette menace ne leur a fait absolument aucun effet. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à ses nobles compagnons de sortir à leurs trousses, malgré le fait que ses compagnons étaient blessés pour certains, souffrants pour d'autres, très fatigués. Eh bien, ils se sont dirigés vers les ennemis qui justement voulaient éradiquer les musulmans. Puis, ils se sont arrêtés dans un endroit appelé Hamra ul-Asad. Hamra ul-Asad. Et c'est là qu'ils ont attendu les polythéistes. Que s'est-il passé par la suite? Lorsque les polythéistes ont pris connaissance de l'arrivée des musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans leur cœur la peur et ils se sont dit, si malgré tout ce qui vient de leur arriver, ils sont sortis vers nous, c'est qu'ils ont encore de la force. Et subhanallah, Allah avec cela leur a mis la panique dans le cœur. Ils ont été terrifiés et apeurés. Que qu'ont-ils fait? Ils ont pris la fuite. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Les musulmans sont revenus sur leurs pas avec un bienfait d'Allah et une grâce. Quel est ce bienfait? لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Aucune nuisance ne les a atteints. Allahu Akbar. Et ils ont eu une énorme récompense en plus de cela. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Et ils ont suivi l'agrément d'Allah. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Et Allah est détenteur d'une immense grâce. Et c'est là qu'il a dit إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ. jusqu'à la fin du verset. Et ce qui est à retenir de ce verset, c'est que quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Yukhawifu awliya'a ma'na yukhawifukum bi awliya'i » Il cherche à vous faire peur à l'aide de ses alliés. Les alliés ici, qui étaient le peuple de Quraysh, et de manière générale, tout allié de Shaytan, qui est utilisé par ce dernier pour faire peur aux créatures en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici le contexte dans lequel ce verset fut révélé. Et il est à retenir de ce verset la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. Et le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dans son commentaire cité l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, lorsque Ibrahim s'est adressé à son peuple, l'appelant à l'islam et à craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Il leur a dit ces paroles, citées dans le Coran, وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Et je ne crains en aucun cas ce que vous lui associez. Parce que eux pensent de leurs idoles ce que l'on ne doit croire que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibrahim leur a dit, je ne crains en aucun cas ce que vous lui associez, ce que vous associez à Allah. Et cette parole est dans un contexte particulier, mais la règle du tafsir dit, Al-ibra bi-umum il-lafzi, la bi-khusus il-sabab. On retient la généralité du texte et pas seulement la cause de sa révélation. Lorsqu'un texte est révélé pour une cause bien précise, certains pourraient être amenés à dire « Ce verset ne nous concerne pas, il concerne telle cause. » N'est-ce pas ? La règle du tafsir, qui est déduite des textes, bien sûr, du Coran et de la Sunna, est de dire « On retient la généralité du texte, pas seulement la cause de la révélation du verset. » Certes, le verset est révélé pour une cause. Cette cause nous aide à comprendre ce verset, mais le sens qui s'y trouve est général. Toute personne qui serait concernée par une chose identique à celle citée dans ce verset entrerait dans le jugement présent dans ce verset. Donc, Ibrahim leur dit, alayhi salam, je ne crains en aucun cas ce que vous lui associez, sauf si mon Seigneur veut quelque chose, subhanahu wa ta'ala. Puis il continue à dialoguer avec eux et à argumenter en leur disant, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Il leur dit cette parole qui est la parole du croyant et du monothéiste. Et comment aurais-je peur de ce que vous associez alors que vous n'avez pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment aurais-je peur des créatures que vous associez à Allah, azza wa jal, qui ont un début et une fin et qui sont sujets à toutes sortes de défaillances et manquements, alors que vous ne craignez pas leur créateur qui n'a pas toutes ces choses négatives et ces défaillances, subhanahu wa ta'ala. أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. Et vous ne craignez pas le fait de lui avoir associé ce dont vous n'avez aucune preuve. Al-Sheikh Salih al-Fawzan nous dit, il apparaît de ce contexte qu'Ibrahim alayhi salam a été menacé par son peuple pour lui dire que s'il persiste dans ce prêche et dans cette prédication, leur divinité allait l'atteindre d'un mal. C'est alors que Ibrahim alayhi salam a dit fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Lequel des deux groupes est plus en droit d'être en sécurité si vraiment vous savez? Puis la réponse est donnée: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Oulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont point troublé leur foi par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Et ce verset, on en a déjà parlé dans un chapitre précédent. Et lorsque l'on parle de deux groupes ici, on parle d'Ibrahim alayhi salam, qui est dans le tawhid, et des polythéistes en face de lui, qui sont le deuxième groupe, qui seront apeurés dans le bas-monde et dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Après ce verset, l'auteur rahimahullah a dit wa qawlihi ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Le sens rapproché du verset: ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui ont foi en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et ne craignent qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que dans ce verset, encore une fois, on fait mention de la crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous explique que ce verset signifie qu'il n'est pas permis aux musulmans de laisser les polythéistes pénétrer leur mosquée pour y pratiquer leur culte. لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المساجد من أجل أن يتعبدوا فيها بعبادتهم الشركية. Il n'est pas permis aux musulmans de laisser les polythéistes pénétrer les mosquées pour y pratiquer leur culte, qui relève du polythéisme et de l'association, car les mosquées ont été édifiées et bâties dans le but de n'évoquer qu'Allah et de n'adorer aucun autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est donc pas permis. Puis, on voit qui sont ceux qui peuvent peupler les mosquées. Ils sont ceux qui ont eu foi en Allah. Ce sont les monothéistes, al-muwahhidun. Au jour dernier, ils ont ensuite accompli la prière et se sont acquittés de l'aumône. Et ils n'ont eu crainte que d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est la partie qui concerne le chapitre. Vous voyez que ce qui a été cité est: ils n'ont eu crainte que d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas eu crainte ni peur d'autre que lui parmi les créatures. Car al-khashya, qui est la crainte, est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah. Il y a une nuance ou une différence entre al-khawf et al-khashya, la peur et la crainte. La peur est connue. Al-khashya, quelque chose de supplémentaire est présent dans le sens huwa khawfun maqrunun bi'ilm. C'est une peur accompagnée de science et de connaissance. C'est-à-dire que il est possible à l'un d'entre nous de craindre l'attaque d'un éventuel agresseur, n'est-ce pas? Certes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui connaît cet agresseur et sait ce dont il est capable. Il connaît le fait qu'il n'a pas de limite, qu'il peut tuer la personne agressée. Est-ce que la peur de cette personne va être comme la personne qui a simplement peur d'être agressée mais ne sait pas ce qui peut lui arriver? Non, ce sont des peurs différentes. La première, on l'appelle al-khawf. Et la deuxième, on l'appelle al-khashya. C'est la peur accompagnée de science. Pour cette raison, Allah Azza wa Jalla a dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ou parmi ses serviteurs, seul Allah craigne véritablement. Seuls les savants craignent véritablement Allah. Et quel mot a été cité? Al-khashya et non pas al-khawf. Parce que tout musulman a al-khawf min Allah un minimum. Sinon, il ne pourrait pas être croyant. Mais al-khashya, c'est avec la science. Et plus tu acquiers le savoir, plus tu as crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Peut-être que ceux-là feront partie des bien guidés. Le mot « asa » dans le Coran, à la base, dans la langue arabe, asa, c'est un mot qui signifie l'espoir de quelque chose que l'on souhaite se voir produire. Asa an takuna bi khair. J'espère que tu vas bien. Il m'est arrivé quelque chose. Asa an yakuna khairan inshallah. J'espère que cela sera un bien. Mais quand Asa est mentionné par Allah dans le Coran, ce n'est pas ce sens-là que ça veut dire. Mais le sens qui est voulu, c'est la certitude. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Asfa Asa ulaika, on pourrait traduire par littéralement le mot, si on le traduit, peut-être que ceux-là seront les bien guidés. Eh bien, il faut traduire avec le tafsir. Ceux-là seront certainement bien guidés. C'est ça qui est voulu par ce verset. Et les savants ont dit Kullu asa min Allah fahiya wajiba. Chaque asa qui vient dans le Coran, qui est cité par Allah subhanahu wa ta'ala, est effectif. Va forcément se produire. Que ceux-là seront donc des gens bien guidés. Wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon le sens rapproché, parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah ou comme le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit dans ce verset de gens qui sont soit hypocrites, qui montrent en apparence la foi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas croyants, ou alors de gens qui sont faibles dans leur foi et qui peuvent adorer Allah lorsqu'ils sont dans l'aisance, mais quand un mal les atteint, une calamité les touche, ils adorent Allah sur un fil. Quand tout va bien, ils tiennent l'équilibre. Et quand une épreuve arrive, ils perdent l'équilibre. Tous ces gens sont mentionnés et sont voulus dans le sens de ce verset, comme nous allons le voir. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous avons foi en Allah ». Al-Sheikh Salih al-Fawzan nous dit « هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ». Ce verset traite des hypocrites qui font apparaître la foi tout en cachant la mécréance. ومن الناس من يقول آمنا يقول مجرد قول ويدعي ما ليس له حقيقة. Il s'agit de gens qui prétendent ce par quoi ils ne sont pas qualifiés en réalité, qui est la foi. فإذا أوذي في الله, et lorsqu'ils subissent des nuisances dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire à cause de leur foi, ils vont être éprouvés parce qu'ils sont croyants. On va porter atteinte à leur honneur. On va tenter de leur faire subir diverses nuisances physiques, morales, financières et toute autre forme de nuisance, simplement parce qu'ils adorent Allah uniquement, Azza wa Jal. Ils sont donc éprouvés. Que font-ils à ce moment-là ? Ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Il voit l'épreuve des gens comme le châtiment d'Allah. Ils ont mis l'épreuve des gens, ou alors la nuisance subie est venue d'une quelconque personne, au même niveau que le châtiment d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qu'ont-ils donc fait par la suite? Ils ont délaissé leur din. Wal'iyadhu billah. Et il fait partie de la sagesse d'Allah d'éprouver les croyants. Allah Azza wa Jal a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Ahasiba An-Nas An Yutraku An Yaqulu Amanna Wa Hum La Yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous sommes croyants sans les éprouver? Fala ya'lamanna Allahu Alladhina Sadaqu. Ainsi Allah connaîtra les véridiques. Les véridiques dans quoi? Dans leurs paroles Amanna. Nous sommes croyants. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Et il connaîtra aussi les menteurs. Dans quoi? Dans leurs paroles, amanna. Certains pourraient dire, n'est-ce pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous et connaît l'avenir. Ya'lamul mustaqbal. فَلِمَاذَا قَالْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَهُوَ يَعْلَمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Pourquoi Allah a-t-il dit, Allah va connaître qui sont les véridiques des menteurs alors qu'il connaît. هنا يتميز العارف من الجاهل. C'est là que le connaisseur se distingue de l'ignorant. عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِسْمَانَ. La science d'Allah, tabaraka wa ta'ala, peut être divisé en deux. Ilmullah bi kulli ma sayakun qabla an yakun. La connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala de tout ce qui va se dérouler et ce qui va se passer avant même que cela ne se produise. Min hadhihi an-nahiya, de ce point de vue, nous disons alim Allah. Allah a su avant. Rien n'a échappé à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'un autre point de vue, ilmullah azza wa jal, ilmullah tabaraka wa ta'ala, bi wuku'i shay'in idha waqa'a ma'a 'ilmihi as-sabiq annahu sayaqa'. La connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala que la chose s'est produite. Il connaissait avant qu'elle allait se produire. Une fois qu'elle s'est produite, il sait aussi qu'elle s'est produite. Ça, c'est un point de vue. Et tout ce que je vous dis là, je l'ai pris du Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, dans son commentaire des conditions de la ilaha illallah, et lui-même l'a pris d'autres savants. Jazakallah khayran. La deuxième chose, c'est فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا أَيْ يُعْلِمُ النَّاسِ بِسَبَبِ الْفِتَنِ مَنِ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ. C'est-à-dire, Allah va montrer aux gens et va faire savoir aux gens qui sont les véridiques des menteurs dans leurs prétentions à la foi. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les croyants pour les tester et aussi afin d'épurer le rang des croyants, afin de purifier ceux qui ne le sont pas réellement et véridiquement, vont se voir. Ils vont être vus et alors ils rejoindront les leurs et leurs semblables et les croyants ressortiront forts, comme a dit le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, al-fitan tukhriju rijalan aqwiya. Les épreuves, les troubles font sortir des hommes forts. Hadha huwa al-mu'min. C'est ça le croyant. Le croyant ne devient pas faible à cause d'une épreuve, comme beaucoup. Lorsqu'il est dit à l'un d'entre eux, je ne te vois plus à la mosquée. Il me semble que tu as arrêté de prier. Il te dit, certes, c'est vrai. Pour quelle raison? Il te dit, j'ai rencontré des difficultés qui sont très lourdes. J'ai trop de problèmes. Mais en abandonnant Allah, tabaraka wa ta'ala, qui lui n'a pas besoin de toi, tu t'es engouffré dans les problèmes. Et tu n'en sortiras jamais par Allah. Et je vous lance un défi de me trouver quelqu'un qui a laissé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui s'en est sorti. Ne me dites pas, il est devenu riche, il a réussi dans la vie. Je vous parle de son cœur et de sa poitrine. Et si Allah pouvait nous montrer, si Allah peut, mais si Allah voulait nous montrer la souffrance qui habite le cœur de ces gens-là, je pense que on la fuirait à des millions de kilomètres. Et on ne voudrait même pas la regarder. Et c'est pour cela que les salafs disaient « لو علم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا لا قاتلونا بالسيف لأخذه. » Si les rois et les enfants des rois savaient ce qu'il y avait dans nos cœurs, c'est-à-dire comme foi, comme apaisement au rappel d'Allah, comme bonheur, comme délivrance, comme je n'ai plus de mots, eh bien, ils nous combattraient à l'épée pour ne le prendre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui recherchent les délices mondains et les bonheurs. Tayyib. Donc, Allah Azzajal éprouve. Et c'est ainsi qu'il va distinguer les véridiques des menteurs. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ. Ils estiment les nuisances des gens comme le châtiment d'Allah. قَالَ الشَّيْخ أَيْ مُسَاوِيَةً لِعَذَابِ اللَّهِ مَعَ الْفَرْقِ الْعَظِيمِ. Ils ont estimé le mal qui les a touchés comme on estime le châtiment d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ce sont donc des troubles qui les ont complètement déstabilisés et fait perdre leur foi, leur confiance en Allah, leur soumission aux ordres d'Allah, Azza wa Jal. Allahu Akbar. لأن فتنة الناس زائلة ومنتهية وخفيفة. Car les nuisances des gens sont vouées à la disparition, elles s'arrêteront et elles sont légères. بخلاف عذاب الله. Contrairement au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشاهد من الآية. Le point témoin du verset, le point qui concerne le chapitre dans le verset, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ils ont estimé la nuisance des gens comme le châtiment d'Allah. أي أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى فهذا هو موضع اللوم. C'est-à-dire qu'ils ont craint les gens et ils n'ont pas craint Allah. C'est en cela qu'ils sont blâmés par Allah سبحانه وتعالى. L'auteur رحمه الله dit عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث ضعيف. Puis il a cité un hadith qui est faible, إلا أن معانيه تؤيده النصوص الصحيحة. Si ce n'est que le contenu de ce hadith est confirmé et approuvé par des textes authentiques. Et c'est طريقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه. C'est la méthodologie du Cheikh dans son livre. S'il cite et mentionne un chapitre, un hadith dont l'authenticité est discutable ou faible, il ne le fait que si ce hadith contient des sens qui sont appuyés par les textes authentiques. Il dit عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزقك الله لا إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. والمعاني صحيحة موافقة للواقع. Les sens sont donc vrais. D'après Abu Sa'id, une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu que le hadith est faible et les sens sont justes. Un signe de faiblesse de la certitude est de rechercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, de les louer pour ce qu'Allah t'a octroyé et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a point donné. La convoitise de l'avide ne peut attirer le bienfait d'Allah, comme ne peut le repousser l'inimitié du haineux. Dans cette parole, on voit plusieurs informations. Premièrement, le fait qu'il fait partie de la faiblesse de la certitude. Et al-yaqin, la certitude, huwa al-ilm al-kamil alladhi la yad'u shakkan. C'est la science qui a atteint un stade et un niveau tel qu'elle ne laisse plus aucune place à une quelconque forme de doute. Al-muqin huwa alladhi la yashukku abadan. L'individu certain en matière de religion est celui qui n'a absolument aucun doute en lui. Eh bien, fait partie de la faiblesse de la certitude de rechercher l'agrément des gens en provoquant sur soi-même la colère d'Allah Azza wa Jal. Et combien on le voit, combien de gens tombent dans le shirk, dans le polythéisme, en connaissant le statut religieux de ce qu'ils vont faire, mais parce que la coutume dit que, le village a dit que, le pays a dit que, les habitudes ont dit que, et si je n'applique pas, ils vont dire que, et avec ces paroles-là, ils vont dire que, finalement, on dira de cette personne si elle meurt dans cet état qu'elle entrera dans le feu. Voilà ce qu'on dira à la fin. Est-ce que c'est cela qu'un individu doué de raison veut? Subhanallah. Fait partie de la faiblesse de la certitude. Combien sont ceux qui connaissent le haqq, qui connaissent la certitude? Je vous donne l'exemple d'une personne qui assiste à des assises de tawhid pendant de longs moments, pendant beaucoup de jours, où cette personne va entendre « Qala Allah, Qala Rasulullah » et elle va prendre connaissance des jugements religieux relatifs au port du talisman, au fait de se rendre chez le devin, chez le voyant. Et lorsque tout cela va être expliqué à cette personne, elle va acquiescer, elle va faire signe qu'elle est muafiq, elle est en accord. Elle va montrer qu'elle accepte cela. Mais que se passe-t-il quand son fils est touché par un djinn, quand son fils est habité par un diable ou est atteint de la sorcellerie? Ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Cette personne-là fait de l'épreuve des gens qu'il a touchés un égal au châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je sais, mais il faut que j'amène mon fils dans mon pays pour le faire soigner. Pourquoi dans ton pays? Parce que là-bas, il y a les grands marabouts. Parce que là-bas, il y a les grands sorciers. Ils te disent, ton fils est malade, ne t'inquiète pas, mon voisin connaît quelqu'un dans le village. Ils disent au bled, ils disent en Afrique, ils disent peu importe. Et à la fin, le résultat, c'est le même. Ils vont faire voyager quelqu'un pour aller le faire du shirk. Wal'iyadhu billah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Nous parlons d'une personne qui connaît, qui a lu, qui a pris connaissance du jugement d'Allah, de la colère d'Allah qui risque de s'abattre sur une personne qui s'adonne à de tels actes. Et pourtant, cette personne, en pleine connaissance de cause, va chercher l'agrément des gens en provoquant sur elle la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de la faiblesse de la certitude. Wa an tahmadahum ala rizqillah. Également fait partie de la faiblesse de certitude de louer les gens pour une subsistance qu'Allah t'a donnée. Comme quelqu'un qui reçoit de la part d'une personne un bien, une somme d'argent, un don, peu importe, ou alors qui trouve un travail avec un patron qui lui donne et qui lui accorde un salaire. Puis, cette personne va oublier. À ce moment-là, il va lui échapper de son esprit que c'est Allah Azza wa Jal qui a mis cette faible personne, créée et faible, sur son chemin. Cette personne va se concentrer sur la reconnaissance envers la créature d'Allah pour une subsistance qu'Allah lui a donnée. Subhanahu wa ta'ala. Et de blâmer les gens pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. Et ça, tu le vois. Si les gens ne te donnent pas, tu te mets en colère. Tu te mets en colère alors que c'est Allah qui ne t'a pas donné. Ta subsistance est dans les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui en fait don. C'est lui qui pourvoit la subsistance de ses créatures. Donc, si quelqu'un n'a pas voulu te donner, ce qu'il faut, c'est se tourner vers Allah. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, il faut observer deux choses. La première, il se peut qu'Allah ne t'a pas donné quelque chose dans ton intérêt. Car il sait que cette chose risque de te pervertir. Comme quelqu'un qui voulait être riche mais qui n'y arrive pas. Allah ne laisse pas cette personne devenir riche parce que cette personne, de par sa faiblesse qu'Allah a connue d'elle, va transgresser les limites fixées par Allah avec ses biens. Alors que si elle reste dans cette modestie, eh bien, cette personne va se préserver dans la religion. Et combien on l'a vu cela? Des gens, par exemple, qui ne sont pas dans une situation régulière du point de vue civil. Ils sont assidus aux prières. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jal leur ouvre une porte et qu'ils commencent à régulariser leur situation, la mosquée, c'est fini. Ça y est, j'ai demandé, il m'a donné, maintenant je suis occupé dans la dunya. Allah Azzawajal connaît ses créatures. Il prive des fois à ses créatures des choses parce qu'il sait qu'avec cette chose-là, elle peut se pervertir. Aussi, ce qu'il faut regarder, ce sont nos péchés. Car Allah Azzawajal peut nous priver d'un bien à cause du mal que l'on a fait et de nos péchés. إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيسٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ. Puis il termine en disant que la subsistance d'Allah Azza wa Jal n'est pas amenée par celui qui est avide, celui qui est motivé. Tu es motivé, alors tu vas avoir. Non. Si Allah veut te donner, tu vas l'avoir. Et celui qui fait tout pour que tu ne puisses pas l'obtenir, si Allah veut te la donner, il va te la donner. Et cela ne veut pas dire que tu dois rester assis comme les soufis et dire « Tawakkaltu ala Allah ». أتوكل على الله لا عمل لا تجارة هذا ليس توكلا على الله هذا ضلال هذا ce n'est pas une confiance en Allah Azza wa Jal. Tu pars, tu laisses ta famille, qu'est-ce que tu vas faire de ta famille? Il te dit توكلت على الله ما هذا التوكل ce n'est pas توكل على الله لا بد من السبب نبذل الأسباب ونتعب نبحث. On cherche, on fait les causes, on travaille, on achète, on vend, on cherche à faire quelque chose. Et on place la confiance en Allah. إِنْ أَعْطَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنْ لَمْ يُعْطِينَا نَبْذُلْ أَسْبَابًا أُخْرَى وَنَصْبِرْ. S'il nous donne, alhamdulillah. S'il ne nous donne pas, on fait d'autres causes et on attend. وَالَّذِي يُقَسِّمُ الْأَرْزَاقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أخيراً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه جميع وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le sens rapproché du hadith: quiconque recherche l'agrément d'Allah sous la colère des gens, Allah en sera satisfait et fera en sorte que les gens aussi le deviendront. Et celui qui recherche la satisfaction des gens en provoquant sur lui la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il fera en sorte que les gens soient en colère contre lui. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Nulle obéissance à la créature dans l'obéissance au Créateur. Nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Ta'atul walidain, ridal walidain, wa ridallah qabla kulli shay, subhanahu wa ta'ala. Fa'in amaraka al-walidan bishurb al-khamr, la tuti'uhuma. Certes, il faut par un exemple obéir aux parents, mais l'obéissance d'Allah passe avant. Si les parents incitent leur enfant à désobéir à Allah, à consommer les boissons enivrantes, l'enfant se doit de désobéir, car il obéit avant, il obéit à Allah avant. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes parents t'appellent à commettre un shirk, le polythéisme, ne leur obéis pas. Ma'a l'ihtiram, avec le respect, wa bayan al-haq bil-hudu wal-hikma wal-sabr, en leur montrant la vérité avec sagesse, avec douceur et patience. Wa du'a lahum, et l'invocation d'Allah Azza wa Jal pour eux. Hada mithal, ce n'est qu'un exemple. Ridwa al-nas bi ghadabillah Azza wa Jal. La satisfaction des gens dans la colère d'Allah, c'est la grande perte. C'est la grande perte. وَرِضَ اللَّهُ وَلَوْ بِغَضَبِ النَّاسِ هُوَ النَّجَاحِ. لأن الله يهدي قلوب الناس يرضون عنك فيما بعد بعد الصبر. Et si tu recherches la satisfaction d'Allah, même si les gens au début ne sont pas satisfaits de toi, tu as réussi parce que les gens au final deviendront satisfaits de toi. Vous voulez un exemple? Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam jaa fa qala ayyuha an-nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu abghadu wa harabu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, dites la ilaha illa Allah, vous réussirez. Ils lui ont déclaré la guerre. Ils l'ont combattu. Qatalu as-sahaba wa at'abuhum a'adhabuhum sajanu ba'dahum. Ils en ont emprisonné certains, châtié d'autres, tué d'autres. Wa ba'da dhalik ba'da as-sabr fi ridha Allah wa law sakhat an-nas. Après la patience dans l'agrément d'Allah, même dans la colère des gens, asbaha aktharuha ula dakhalu fi al-islam. وَمِنْهُمْ مَنْ أَصْبَحُوا أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ انظر عمر رضي الله عنه. Après cela, beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam et pour certains, ils sont devenus les meilleurs compagnons. Regarde Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. Omar voulait tuer le prophète صلى الله عليه وسلم avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Les sahaba ont patienté. Ils ont souffert. Les sahaba ont souffert. Lamma sabaru wa thabatu, quand ils se sont montrés fermes et endurants, hadallah ba'd Quraysh. Allah a guidé des gens de Quraysh. Wa minhum Umar. Et parmi eux, Umar. Et quand Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu dakhal fil islam, s'est converti à l'islam. Sa'ada jabalan wa nada an-nasa jami'an. Il est monté sur un monticule, petite colline, puis il a appelé tous les gens wa haddadahum. Al-bariha huwa ma'ahum. Al-yawm aduwwuhum. Hier, il était avec eux. Et aujourd'hui, ça devient leur pire ennemi. Il les appelle et les provoque tous. Et ça, c'était après le lever du soleil, après l'aube, le début de l'aube. Il s'est bagarré avec des dizaines de personnes jusqu'au shuruq, radiyallahu anhu. Ils ont essayé de le frapper, et lui, il s'est défendu, il s'est bagarré avec des dizaines de personnes, ils l'ont frappé jusqu'au lever complet du soleil. Radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Allah l'agrée, et les gens vont l'agréer après aussi. Voici la fin de ce chapitre. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك